CFM. CFM Villefranche.
Allez, vous venez nous rejoindre suite de cette édition du Mag Aveyron, le Mag Santé, Bien-être, Fleurette, Pâquerette et Assiette avec Karine Weck en ouverture de ce magazine d'actualité. On reprend notre rythme en 2024, tous les 15 jours, en alternance. Waldo Stephen, praticien en médecine traditionnelle chinoise et en réflexologie plantaire, et Didier Vallet, grand et haut spécialiste des plantes aromatiques et médicinales, sommité fleuri de la biodynamie, je dirais même poète des plantes. Bonjour Didier.
Bonjour David. Bonne année.
Et oui, santé, bonheur, santé, bonne humeur.
Voilà, tous les vœux pour la nouvelle année à toutes et à tous.
La biodynamie qui célèbre ses fondements, ses 100 ans d'activité, je serais tenté de dire, là, en 2024.
Oui, totalement, puisque les bases de l'agriculture de biodynamique ont été données en 1924, donc ouais. Il y a déjà 100 ans. Et donc, terminé l'année 2023, notre région a terminé l'année 2023 en accueillant l'Assemblée Générale Nationale, puisque l'agriculture biodynamique est organisée au niveau national et au niveau international, il faut le dire, puisqu'elle existe de manière organisée, elle existe dans 50 pays du globe, donc depuis l'Amérique du Sud, en Asie, en Australie, un peu partout, en Europe, bien sûr, aux États-Unis. Donc, nous, là, en RSC, simplement, on n'a pas organisé une assemblée générale internationale. Ça existe aussi, mais là, on a organisé, dans notre région, donc c'était à la Fouillade, l'assemblée générale nationale du mouvement d'agriculture biodynamique, qui est basée normalement, à Colmar, hein, dont le siège est à Colmar, en Alsace. Et donc, on a accueilli une soixantaine de personnes pour cette Assemblée Générale. Une Assemblée Générale, c'est déjà une demi-journée de quelque chose pour ceux qui font partie du secteur associatif, ils connaissent, hein, c'est statutaire, les comptes rendus d'activité, comptes rendus financiers, les votes s'il y a des nouveaux administrateurs à rentrer, voilà, bon, le truc classique. Et l'après-midi, le samedi après-midi, donc on a là, c'était beaucoup plus des échanges entre toutes les régions, puisque ce mouvement national est fédéré sur une quinzaine de régions qui ne correspondent pas forcément aux régions administratives françaises, disons. Hein. Puisque, par exemple, notre association est sur 3 départements d'Occitanie, mais c'est pas l'association d'Occitanie. Hein. Voilà, c'est découpé en fonction de ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc, l'après-midi, on a discuté vraiment sur les projets communs qu'on peut avoir entre les différentes régions. Il y avait un peu toutes les régions de France qui étaient là, de l'Alsace à la Bretagne, à l'Aquitaine, à PACA, et ainsi de suite. Donc, on a pu discuter, entre autres, de ce qu'on allait faire, essayer de faire en commun pour ce centenaire de la biodynamie. Voilà. Donc, justement, pour ce début d'année, là, j'avais terminé l'année 2023 en parlant de plantes médicinales. Pas forcément des plantes qu'on utilise en agriculture biodynamique, mais en règle générale, qu'on utilise pour se soigner ou pour soigner des animaux, ou voilà. Même des végétaux, hein, ce sont des plantes de soins avant tout. Et là, j'avais envie de commencer cette année 2024 pour reparler un peu de biodynamie, puisque notre rubrique, c'est des plantes, des hommes et de la Absolument. Biodynamie.
Merci donc, de le rappeler.
Donc, voilà, de temps en temps, je parle aussi des hommes, parce que derrière la biodynamie, il y a les hommes qui la pratiquent, il y a les paysans, les jardiniers qui la pratiquent. Et donc, je voulais resituer un peu l'agriculture biodynamique depuis un siècle, comment elle est apparue, où elle est apparue, voilà, ses objectifs, et comment elle a un petit peu évolué, comment l'agriculture a évolué depuis l'année 1924, parce que moi, je n'ai pas connu, je ne suis pas assez vieux. mais j'ai connu, je suis assez vieux pour avoir connu une forme d'agriculture après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, qui était encore très, j'ai connu sur nos petites fermes, chez mes grands-parents, les premiers tracteurs. J'ai connu encore le battage des céréales, récolter les céréales avec le cheval, avec la faucheuse-lieuse qu'on mettait en gerbe. Et ensuite, la batteuse qui venait au village où tous les paysans se retrouvaient sur une ferme pour battre. Et ensuite, on allait sur l'autre ferme et là, toutes les femmes étaient là à faire la cuisine pour tout le village, pratiquement, des grandes fêtes de village autour d'un travail agricole, quelque part. Donc, tout ça, ça a disparu. Il reste encore un petit peu de travail en commun avec les ensilages, mais bon, c'est pas la même chose, quand même. Donc, voilà, 1924... on est à peu près historiquement à mi-chemin entre la fin de la Première Guerre mondiale, donc 1918, et le krach boursier de 1929. Donc, à une période, donc faut voir, cette guerre avait été, comme souvent les guerres, quand même très meurtrière. Il suffit de voir les monuments aux morts, à nos morts de 14-18 sur toutes les places de village, le nombre de familles qui étaient impactées. Il suffit d'aller voir même les tombes dans les cimetières pour voir tous ces jeunes hommes qui sont morts dans les tranchées, et ceux qui sont revenus souvent en mauvais état, estropiés, gazés. Et donc, faut imaginer la situation de la paysannerie en France où pendant 4 ans, ce sont les femmes qui ont fait tourner les fermes, les hommes n'étaient pas là. Et comment, la sortie de la guerre, il y avait beaucoup moins de paysans et il fallait nourrir toute une population, quelque part. Et faut un peu imaginer ça, et c'est là... quelque part, la première fois que l'agriculture a commencé à évoluer pour aller vers une plus grande production. Passer d'une... Alors, on n'était pas encore à ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, mais il y avait déjà un prémisse d'utiliser des engrais, par exemple, autre que du fumier. Puisque, il restait beaucoup de stocks d'ammonitrate, de salpêtre, qui servait à la fabrication des obus. Et M. Liebig avait montré qu'on pouvait nourrir les plantes avec des produits solubles et que le nitrate faisait pousser les plantes. Donc, petit à petit, il y a eu une transformation de l'industrie de l'armement à l'industrie de l'agriculture, quelque part, la fabrication d'engrais chimiques. Mais c'était vraiment le tout début. Et en Allemagne, dans le nord de l'Allemagne, ce qu'on appelait la Prusse, dans le temps, il y avait des très grands domaines terriens, c'était des domaines qui appartenaient à des nobles, qui avaient beaucoup d'ouvriers sur ces domaines, et des gens qui ont demandé à un monsieur qui s'appelait Rudolf Steiner de venir leur parler d'agriculture. Et c'est là, donc, il y a eu une série il y a eu 8 jours de conférences, une série de 8 jours de suite de conférences qui ont été données. C'était autour de la Pentecôte 2024, où ont été données, où Steiner a dressé un petit peu un tableau de comment il voyait la nature, comment il voyait les relations entre les êtres vivants, ce que c'était que le sol, et ainsi de suite, qui était quand même un peu différente de ce qu'on savait jusqu'à présent.
En quoi Steiner était compétent pour intervenir ? Pourquoi il a été sollicité à cet endroit ?
Alors, ces gens ont sollicité Steiner parce que c'était un monsieur... Alors, il faut resituer un petit peu, parce que parler personnellement, quand j'ai entendu parler la première fois d'agriculture biodynamique, je sortais tout juste de mon école d'ingénieur. J'avais 23 ans, et pour moi, ça a été n'importe quoi. C'était n'importe quoi, parce que j'en ai déjà un peu parlé. On utilise des substances telles que le habous de vache ou des plantes médicinales, mais à dose tellement infime que quand on n'est pas rentré dans ce processus de qualité d'une plante, de qualité d'une substance, et qu'on est seulement dans la quantité, on se dit, mais c'est quoi ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils nous racontent?
C'est quoi ces sorciers?
Donc j'ai eu cette première réaction. Il a fallu que j'attende quelques années d'une évolution personnelle, d'une réflexion, de certaines expériences que j'ai pu faire pour pouvoir commencer à comprendre les choses. Donc tout ça pour dire que ce qu'expliquait Steiner... Alors Monsieur Steiner, c'était... Alors à l'époque, donc, il sortait de l'école polytechnique de Vienne. C'était un Autrichien. Et les écoles polytechniques, c'était des écoles où, à cette époque-là, on étudiait toutes les sciences. Il n'y avait pas de compartiment comme on fait maintenant, où il va y avoir le physicien, et encore le physicien spécialiste de telle partie, le chimiste spécialiste de chimie minérale ou de chimie organique, ou de, voilà, le microbiologiste. Là, on étudiait toutes les sciences, sciences de la vie, sciences exactes, tout était, c'était un peu les encyclopédistes, c'est-à-dire des gens et qui touchaient à la philosophie aussi, très souvent, c'était les scientifiques qui étaient philosophes. Donc Steiner faisait partie de ces gens-là. Et en plus, il avait, alors c'est là que ça se complique, parce que c'était un monsieur qui, dès qu'il était tout jeune, avait des perceptions, genre comme les médiums, si vous voulez, des perceptions que n'ont pas tout le monde sur des choses qu'on ne voit pas avec les yeux. Donc, et autrement, il avait travaillé aussi pendant 10 ans sur les employés par un organisme qui, il avait travaillé sur tous les écrits scientifiques de Goethe. Alors Goethe, il est très connu, c'est un poète allemand très connu pour, par exemple, avoir écrit l'œuvre de Faust, mais il a écrit beaucoup, beaucoup de poèmes, beaucoup de livres, mais il est très peu connu pour ses écrits scientifiques, et il avait travaillé énormément sur la botanique, sur la géologie aussi. Il y a un minéral qui s'appelle la goethite, par exemple, qu'il avait découvert, et donc Steiner a repris tous les ouvrages de Goethe et les a retravaillés pour les publier, et ainsi de suite. Donc il était rentré dans la forme de pensée de Goethe, qui était alors une forme... alors c'était un poète, et les poètes sont des gens qui approchent la réalité, mais avec une sensibilité autre, quelque part. Donc voilà, Steiner, c'est quelqu'un qui peut laisser, et justement cette personne de Steiner, qui est une personne un peu sensible, fait que de temps en temps, il y a des gens qui tapent sur la biodynamie en disant oui, mais c'est une agriculture, c'est des mages, c'est des sorciers, parce que Steiner a écrit aussi beaucoup d'ouvrages qui a trait sur le monde qu'on ne voit pas avec les yeux, le monde de l'invisible et des choses comme ça. Donc on ne va peut-être pas avoir le temps aujourd'hui d'aller beaucoup loin. On a déjà placé un petit peu la conférence de base et un peu parlé un petit peu de qui était Steiner. Et ben dans 15 jours, on ira un peu plus loin.
Parfait. Un peu d'histoire aujourd'hui dans la chronique des plantes, des hommes et de la biodynamie. Retour à la biodynamie. Après s'être intéressé pendant quelques mois aux plantes, aux différentes plantes l'année dernière.
Et on y reviendra.
On y reviendra. Merci Didier, à dans 15 jours.
À bientôt David.
C'était le mag de ce 8 janvier, en podcast sous peu sur le site cfmradio.fr et la suite du programme dans un instant.
CFM Radio, votre radio dans l'Aveyron.